Chapitre 25. Dans la vallée des ombres. L'adversité, tel un vent furieux, nous empêche d'aller où nous voulons, nous dépouille et nous laisse face à nous-mêmes, tels que nous sommes, et non tels que nous pensions être. Arthur Golden. 24 décembre 2010. Jamaica Plain, banlieue de Boston. 20h59. La chambre d'hôpital baignée dans une lumière blanche. En attente d'une greffe, Nick Fitch était plongé dans le coma. Désormais, la vie de l'homme d'affaires ne tenait plus qu'au respirateur artificiel branché à côté du lit. Kate plissa les paupières, vérifia l'enchevêtrement de perfusion, les constantes et la bonne marche de l'électrocardiographe. Puis elle se pencha et déposa un rapide baiser sur la bouche de son amant. « À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Elle ferma les yeux pour puiser dans ses réserves d'énergie, puis respira profondément, retira sa blouse blanche et sortit de la chambre. Surtout, ne pas flancher. Suivre le plan. Elle prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et salua les rares collègues qu'elle croisa dans le couloir qui menait aux urgences. Ne pas perdre de temps. Comme elle s'y attendait, l'hôpital était calme. À part les plaies par couteau à huître, le soir du réveillon de Noël était toujours beaucoup moins agité que celui du 31 décembre. Même la salle de repos, malgré ses décorations, paraissait frappée d'une sorte de langueur. Dans son casier, Kate récupéra son manteau, son sac et son téléphone portable. Son premier appel fut pour son mari. Elle lui parla tout en continuant à marcher, remontant le long corridor translucide qui conduisait au parking, jouant à la perfection son rôle d'épouse modèle, anticipant parfaitement chaque réaction de Matt. « Hello chérie, je sors à l'instant de l'hôpital, mais ma voiture est encore en rade sur le parking, » mentit-elle. « Comme toujours, c'est toi qui avais raison. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette guimbarde. »«
Je te l'ai dit 1000 fois, » remarqua Matthew.
« Mais j'y suis tellement attachée à mon vieux coupé Mazda. Tu sais que c'est la première voiture que j'ai pu me payer lorsque j'étais étudiante. » »«
C'était dans les années 1990, mon cœur. » Et à l'époque, c'était déjà une seconde main.
Je vais essayer d'attraper un métro.
Tu plaisantes? Dans le coin, à cette heure-ci, c'est trop dangereux. Je prends ma moto et je viens te chercher.
Non, il fait vraiment très froid. Il tombe un mélange de pluie et de neige, c'est pas prudent, Matt.
Elle savait très bien qu'il allait insister. Elle le laissa jouer son rôle d'homme protecteur avant de lui céder.
D'accord, mais fais attention alors. Je t'attends, dit-elle en franchissant les portes automatiques.
Elle raccrocha et sortit sur le parking. Le froid lui mordit le visage, mais elle ne le sentit pas. 21h03. Samir Narayem tourna la clé de contact de son camion-citerne et quitta le site de la minoterie Allwheat à l'ouest de la zone industrielle de Jamaica Plain. Il effectuait sa dernière livraison avant de rentrer rejoindre sa femme, Sajani. La journée avait été longue et pénible. Samir ne devait normalement pas travailler en cette veille de Noël, mais son patron lui avait téléphoné en catastrophe en début de matinée pour lui demander de remplacer au pied levé un chauffeur qui manquait à l'appel. Bien que lui et son épouse aient prévu de passer la journée en famille, Samir n'avait pas osé refuser la proposition de son chef. Avec la crise économique et la grossesse de Sajani, ce n'était pas le moment de risquer de perdre son emploi. Il n'empêche que c'est galère. Il regarda l'horloge de son tableau de bord. « Faut pas que je traîne. » Il devait livrer sa cargaison de farine dans une usine de Quincy, au sud de Boston, avant 22 heures. Samir accéléra légèrement, flirtant avec la limite autorisée. Il n'imaginait pas que, dans quelques minutes, il allait tuer quelqu'un avec son camion. 21h05. Kate avança dans les travées du parking en plein air pour rejoindre sa voiture. En arrivant devant l'emplacement 66, elle découvrit avec stupéfaction qu'il était vide. On lui avait volé son coupé. C'est pas vrai. Elle avait garé la voiture à sa place habituelle lorsqu'elle était arrivée en début d'après-midi, elle en était certaine. Elle sentit la colère la gagner et hésita sur la marche à suivre. Il fallait qu'elle appelle le tueur à gages pour lui donner son feu vert avant que Matt quitte la maison. Mais la réussite de son plan tenait aussi au fait qu'elle soit la première sur les lieux de l'accident. Elle voulait à tout prix superviser l'arrivée des secours et profiter habilement des sous-effectifs de Noël. Dans un premier temps, elle comptait jouer sur son double statut de médecin et d'épouse de la victime. Elle exigerait de garder le corps de Matthew sous surveillance jusqu'à l'hôpital, précipiterait l'angiographie qui devrait attester de sa mort cérébrale, s'assurerait elle-même que son cœur soit maintenu artificiellement en état de fonctionner et réglerait rapidement les problèmes de consentement de don d'organes. Ce matin, elle n'avait pas oublié de vérifier que le portefeuille de son mari contenait bien la carte de donneur d'organes qu'elle l'avait convaincu d'obtenir 3 ans plus tôt. Elle savait que ce serait à elle que le corps médical poserait la question et demanderait de prendre une décision. Son mari entretenait des relations lointaines avec ses parents qui vivaient en Floride et n'avait pas d'autre famille à Boston. Son plan réussirait à condition que les choses aillent très vite. Une fois que le principe du prélèvement serait acté, le laboratoire procéderait à un bilan sérologique et établirait un état des organes grâce à l'imagerie médicale. Autant d'examens qui les orienteraient vers des receveurs potentiels et compatibles. Nick figurait sur la liste prioritaire, la liste écarlate, et serait identifié immédiatement. Depuis 2 mois, elle guettait les plannings des équipes et comme elle ne pourrait opérer Nick elle-même, elle s'était assurée que le chirurgien cardiaque de garde cette nuit était un des cadors de l'hôpital. Depuis des jours, des mois, des années, elle avait tout planifié. Sauf qu'on lui volerait sa voiture sur ce putain de parking. Ne pas perdre son calme. Kate n'avait pas envisagé ce genre de difficulté, mais elle devait garder son sang-froid. Comme aux échecs. Elle repensa à cette phrase de Tartakover, un maître de la discipline. La tactique consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose à faire. La stratégie consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il n'y a rien à faire. Elle rejoignit au pas de course la guérite qui abritait le vigile chargé de garder le parking et signala le vol de son véhicule.
« C'est impossible, dame. Je suis de service depuis midi. Je connais par cœur votre cabriolet et je peux vous assurer qu'il n'est pas sorti de l'enceinte de l'hôpital. Vous voyez bien pourtant qu'il n'est plus là. Alors c'est que vous l'avez garé ailleurs. Ça arrive tous les jours. La semaine dernière, le docteur Stern croyait aussi qu'on lui avait volé sa Porsche, alors qu'il était venu travailler en taxi.
Mais je ne suis pas folle, enfin.
J'ai pas dit ça, docteur. Je vais jeter un œil aux niveaux inférieurs, affirma-t-il en désignant les moniteurs des caméras de surveillance.
C'est ça. Kate avait déjà tourné les talons lorsque la voix du gardien l'interpella.
Il est ici, votre coupé, madame. Au niveau moins 3, place 125,
annonça-t-il en désignant son écran. Le visage barré d'un sourire victorieux, l'air de dire « Ces médecins, tous des cons !» Kate délaissa les ascenseurs et se rua dans les escaliers qui menaient au parking souterrain. Cet imbécile de gardien avait raison. Le coupé Mazda était garé au dernier niveau. Comment était-ce possible ? Elle avait une place à son nom en surface. Elle n'était même jamais venue ici. Quelqu'un avait déplacé sa voiture, c'était certain. Mais pourquoi ? Cela avait-il un rapport avec le trousseau de clés qu'elle avait perdu en début de semaine ? Les questions se bousculèrent dans sa tête, mais elle choisit de les ignorer. Elle regarda son téléphone. Réseau indisponible. Normal. Elle était au sous-sol. Elle déverrouilla sa voiture, mit le contact et quitta le parking souterrain. Une fois en surface, elle fonça jusqu'à la sortie. Avant de se lancer sur la route, elle passa un bref appel à Oleg Tarasov pour lui donner enfin son feu vert. Lorsqu'elle se fondit dans la circulation, elle aperçut dans son rétroviseur un gros camion-citerne qui tournait au coin de l'avenue, dans le sens inverse au sien. Ancienne zone industrielle de Windham, 21h08. Le local frigorifique était plongé dans le noir. Romuald craqua une nouvelle allumette sortie de la boîte qu'il était parvenu à voler au tueur lorsque celui-ci l'avait passée à tabac. Naïvement, il avait cru qu'elle pourrait lui être utile, mais il n'y avait rien à brûler dans l'entrepôt glacial. Les palettes en bois entreposées étaient bien trop humides pour prendre feu. La petite tige de bois s'enflamma, produisant une faible lueur qui ne brilla que quelques secondes. Puis, la pièce retomba dans le noir complet. Un froid mortel enveloppait l'adolescent, le prenant à la gorge, figeant son visage, paralysant son nez et ses oreilles. Un souffle glacé brûlait ses mains, s'infiltrant partout dans son corps et pénétrant ses os jusqu'à la moelle. Un ennemi invisible contre lequel il ne pouvait pas lutter. Après s'être d'abord accéléré, son rythme cardiaque était maintenant devenu beaucoup plus faible. Les tremblements et la peur se couplaient à une terrible fatigue. Progressivement, il sentait ses forces le quitter. Il s'épuisait. Pour ne pas tomber dans un état léthargique, il s'était fixé comme but de craquer une allumette toutes les 10 minutes environ et il se raccrochait à ce cérémonial. Ses pieds et ses jambes étaient raides, comme tétanisés. En cours de biologie, il avait appris que pour combattre l'hypothermie, le sang quittait les extrémités de son corps pour préserver les deux sanctuaires qu'étaient le cœur et le cerveau. Son esprit était embrouillé, proche de la perte de connaissance. Il aurait été incapable d'ouvrir la bouche ou de parler, et il pensait au ralenti. Il avait les bronches encombrées, mais n'avait même plus la force de tousser. À peine celle de continuer à respirer. Dans aucun de ses cauchemars, il n'avait pensé que le froid puisse être si intense. Et le cascadeur avait vu juste. Le plus terrifiant était bien d'avoir conscience que personne ne viendrait vous secourir. Savoir que vous alliez crever seul, dans le noir, emporté par une souffrance atroce. Boston, Beacon Hill, 21h09. Moins d'une minute après avoir accroché, Oleg Tarasov aperçut Matthew Shapiro en train de descendre la volée de marche du perron. Le Russe enfila son casque et ses gants sans quitter des yeux le jeune professeur. Il le regarda enfourcher sa moto et son œil d'expert fut sensible au modèle. Une Triumph Tiger Cub de la fin des années 1950, magnifiquement restaurée avec son phare rond, sa selle basse et ses chromes rutilants. Il laissa Shapiro prendre un peu d'avance, mit les gaz de sa Harley et partit dans son sillage.